Donc ce matin, nous revenons encore dans notre étude avec Daniel. Les trois premiers chapitres ont mis l'accent sur Daniel, sur le premier chapitre, sur Nebuchadnezzar, sur Daniel. Le chapitre 2, c'était de voir comment Daniel a pu interpréter le songe du roi Nebuchadnezzar. Au chapitre 3, l'événement était porté sur Shadrach, Meshach et Abednego. C'était eux qui étaient les acteurs principaux de la scène. Mais aujourd'hui, on va revenir pratiquement au roi Nebuchadnezzar, qui sera notre acteur principal. Et quand on va, le chapitre 4 qu'on va voir aujourd'hui a des similitudes avec le chapitre 2 que nous avions vu la dernière fois. Donc, ensemble, on va faire ressortir les éléments qui nous permettront de marcher toujours avec notre Dieu et puis de lui être fidèle, de tirer des leçons à partir de la vie de tous ces hommes-là. Dimanche dernier, c'est pas si vous pouvez faire, on peut se rappeler un peu de ce qui a été vu le dimanche passé, Daniel chapitre 3, c'était Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. Et puis, quels sont les éléments qui vous ont marqué? Pas forcément ressorti au détail ce qui a été dit, mais quand on a lu le chapitre, quels sont les éléments forts qui sont venus vous frapper dans ce passage? C'est ça, la statue d'or qui a été érigée par le roi pour que tout le monde puisse se prosterner. C'était un grand roi, donc il voulait effectivement montrer sa domination, tout son pouvoir, tout son orgueil par cette statue d'or en plus. Ce qui était impressionnant de voir que la statue que Daniel avait interprétée au chapitre 2, on dit la tête était d'or et cette tête-là représentait le roi Nebuchadnezzar. Et puis donc le roi Nebuchadnezzar au chapitre 3 décide de bâtir une statue tout en or. Donc on voit un peu le type de personnage. Il aimait les grandes choses.
On voit aussi le positionnement des trois gars.
La fermeté, la foi, la confiance en Dieu dans la conviction des trois jeunes gens qui étaient des compagnons de Daniel. Quand on se rappelle au chapitre 2, on se rend compte que quand Daniel, après avoir interprété effectivement le songe de Nebuchadnezzar, avant l'interprétation d'abord, quand il va rencontrer le roi pour lui dire, c'est pas la peine de mettre à mort les autres sages, mais Dieu va interpréter. On dit quand Daniel sort de là, il rassemble les trois gars, Shadrach, Meshach, Abednego, et puis il rentre en prière pour que Dieu puisse révéler la chose qui est cachée, le songe du roi. Donc c'est alors que le roi donne l'interprétation du songe à Daniel, et Daniel le transmet donc au roi. Et le roi nomme donc Daniel comme le chef de la province de Babylone. Mais Daniel dit, mais je ne peux pas être chef de la province de Babylone, allez-moi seul gérer Babylone, mais j'ai besoin de trois gars qui seront mes intendants dans la gestion de la province de Babylone. Donc Shadrach, Meshach, Abednego. Donc des gars sûrs avec lesquels il a pris le temps dans la prière pour pouvoir avoir la révélation que Dieu avait donnée au roi. Donc le roi accepte que ce soit ces trois gars-là, que Daniel les prenne avec lui comme intendant. Donc avoir la gestion des départements de la province de Babylone. Donc, ce sont ces trois gars-là, au chapitre 3, qui sont mis en avant parce qu'ils refusent donc de pouvoir adorer la statue d'or géante, merveilleuse, belle, certainement, que le roi avait bâtie. Alors, c'est un affront pour le roi Nebuchadnezzar.
Et aussi que le cœur du roi a été touché, n'est pas changé.
Le cœur du roi, à quel moment le cœur du roi a été touché? Mais c'est impressionnant, c'est le quatrième homme dans la fournaise. On dit le roi sort et puis il est merveilleux, il appelle ces gars et puis leur demande, mais n'y avait-il pas trois gars qu'on a jetés dans la fournaise, attachés, en tout cas, ils ne pouvaient pas sortir, mais qu'on a jeté. Les gens lui disent, oui, il y a quatre hommes dans la fournaise ardente.
Qui marchent librement. Qui,
il dit, mais moi, les gars lui disent, on a jeté trois. Il dit, mais moi, j'en vois quatre qui marchent librement. Mais le quatrième, il a un aspect particulier. Amen. Donc, pour montrer effectivement, mais pour ces quatre gars-là, pour ces trois gars, c'était une épreuve. C'était une épreuve de dire, oh, c'est vrai, on reste ferme, on reste fidèle, mais quand leur vie est en danger, ils sont conscients de cela, mais ils demeurent fermes. Cela nous rappelle un peu nos frères et sœurs qui sont dans des zones où l'évangile, il y a de l'interdiction de proclamation de l'évangile, hein. Et au-delà, après toute cette scène-là, quelque chose se passe. Le roi s'incline. Il est touché par... Il passe par une grande émotion. Il est touché par ce qui se passe. Et donc, il interdit au peuple de mal parler du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Et au chapitre 4, on va voir comment la transformation du roi continue. C'est-à-dire, il vit des événements particuliers. Et puis donc, au chapitre 4 ici qu'on va voir, on va voir comment le roi, effectivement, va connaître une autre transformation et jusqu'où va cette transformation-là. Donc, au péril de leur vie, Shadrach, Meshach et Abednego ont montré du courage et de la fermeté face aux menaces du roi. Donc, le courage, la fermeté et la foi de ces jeunes gens doivent nous servir d'exemple dans notre marche aussi avec le Seigneur. Ils ont fait confiance à leur Dieu. Dieu a permis la persécution pour faire éclater sa gloire. Et la délivrance apportée à Shadrach, Meshach et Abednego nous remplit donc d'adoration. Et cette adoration-là aussi, on ne dirait pas que le roi l'a vraiment fait, mais il a reconnu effectivement que le Dieu de Shadrach, de Meshach et Abednego est un Dieu, c'est le Dieu suprême. Il a même dit le Dieu suprême. Donc, le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Mais est-ce qu'à là encore, le cœur du roi est touché pour l'adorer? C'est un peu comme Pharaon et Moïse, hein? Quand Moïse fait le miracle, quand ses devins ne peuvent pas faire, il croit un instant en Moïse, mais son cœur n'est pas incliné. Donc, le chapitre 4, c'est du verset 1 au verset 37 qu'on va lire ensemble.
Donc, j'ai juste un commentaire. Si. Le chapitre 2, c'est le rêve que... de la statue, puis le chapitre 4, c'est le rêve de l'arbre. Le chapitre 4 puis le chapitre 2, il y a 30 ans environ qui s'écoulent.
Tout à fait.
Fait que des fois, on pense que ça se fait de suite, ou quelques années, mais c'est, en,
c'est des,
plus
c'est,
de 30 ans.
Qui s'est, tout à fait. Donc, le chapitre 4, c'est du verset 1 au verset 37 qu'on va lire ensemble.
Amen.
C'est touchant, n'est-ce pas? Donc, on voit quelqu'un dans toute sa gloire être rabaissé à ce niveau. Mais après, qui est repositionné, je dirais, ou qui regagne tout ce qu'il avait perdu ou égaré. Et puis, on voit comment Dieu agit dans sa grâce et par sa main puissante comme il veut. Donc, le chapitre est écrit après les événements relatés. Quand on voit le chapitre, on a l'impression, c'est, comment il s'appelle, Nebuchadnezzar lui-même qui décrit les faits. Hein. Voilà, donc certains auteurs nous disent effectivement que cette partie du livre, dans le chapitre, a été écrite carrément par les mains du roi lui-même, Nebuchadnezzar lui-même, et puis donc compilée par Daniel dans son texte. Donc, ça vient montrer effectivement comment Dieu peut toucher ou Dieu peut aller chercher les individus comme il le sent. Donc, l'on observe... Oui, vas-y.
Excuse-moi, en lisant ce texte-là, je me suis dit, ça prend la foi. Pour croire à ce texte.
Oui.
Ça prend la foi.
Ça prend la foi, ça me rappelle une discussion que j'avais eue en son temps avec un ami. Et puis, donc il m'a dit, il me disait, mais Célestin, tu sais que ce qui est écrit dans la Bible, c'est une fable. C'est-à-dire, il parle de Genèse, il dit, regarde tous les événements, mais tu sais que c'est des fables. Et puis, c'est ce qu'il leur enseignait. Hein. C'est un ami chrétien. Je dis, non, ce n'est pas une fable. Si tu dis que c'est une fable en ce moment-là, quelle est ta croyance vis-à-vis de Dieu? Il y a un problème. Donc, il fallait qu'on discute, qu'on revoie un peu. Je dis, non, dès qu'on va avec l'idée préconçue que c'est une fable, moi, je ne crois plus en la Bible. Il y a un problème. Parce que nous, on déclare que la parole de Dieu est la vérité. La Bible est la vérité. Chaque chapitre, chaque verset de la Bible est vrai. C'est en cela qu'on croit.
Et en plus, l'archéologie parle. Il semble qu'à Babylone, on aurait même trouvé le socle, la base de la statue de
Nebuchadnezzar. On nous parle aussi du jardin suspendu de Nebuchadnezzar qu'il a fait. Donc, il y a plusieurs éléments qui viennent attester la vérité ou la véracité de ce test-là. Bien encore, certains vont trouver effectivement, mais c'est normal, les gens vont discuter comme ça. Mais nous, on s'appuie, on croit que la Bible est vraie, la parole de Dieu est la vérité, et ça prend la foi. C'est important qu'on puisse partir sur la base, comprendre effectivement que la Bible est vraie, c'est la vérité. Parce que même, de plus en plus même, il y a certains critiques qui viennent mettre à mal même la naissance miraculeuse de Jésus. Et donc, vous comprenez jusqu'où on peut progresser pour pouvoir attaquer la Bible. Mais nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible est vraie. Amen. Parce que notre foi est fondée sur elle. Amen. Donc, pour revenir à notre test, l'on observe une transformation dans la vie du roi Nebuchadnezzar, après lecture. Dieu intervient clairement dans la vie du roi, et puis un prodige dans la vie du roi. Donc la première partie, ce sera qu'on va regarder ensemble, ce sera donc la proclamation du roi Nebuchadnezzar, c'est-à-dire du verset 1 au verset 3, le songe qui avertit le roi de son abaissement, la réalisation du rêve de Nebuchadnezzar et puis la louange du roi. Donc ici, lorsqu'on lit la première portion de notre test, donc du verset 1 au verset 3, où le roi effectivement fait une proclamation ici, au regard des récits précédents, que percevons-nous dans la proclamation donc du roi? Et puis, qu'est-ce qu'on peut voir ensemble? Dans cette proclamation du verset 1 au verset 3, d'abord, on voit effectivement qu'il décline, le roi décline son identité. Donc, il se présente, lui, Nebuchadnezzar, c'est-à-dire son identité et son titre. Il dit, non seulement il est Nebuchadnezzar, mais il est roi. Donc, il donne effectivement sa position ici. Donc, il indique les destinataires de sa proclamation. Vers qui, à qui il s'adresse quand il fait cette proclamation? Qu'est-ce qu'il veut que les gens sachent? Il dit, Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes, à toutes les langues qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Donc déjà, il précise vers qui il adresse son message. Donc à toute la terre, à tout le monde. Donc ici, il précise. Et puis, ses paroles sont assaisonnées de grâce à l'endroit de ses destinataires. Donc au peuple, quand il écrit, il apporte désormais des paroles de bénédiction.
Est-ce qu'on peut dire que c'est oui. À toutes... les nations, les langues connues du temps?
Oui, bien sûr. Puisqu'on sait que Nebuchadnezzar, c'était un roi puissant, c'était une domination, je dirais un empire. Hein. Donc, ça, il régnait sur, je dirais, sur le monde pratiquement, sur l'espace connu, sur le monde. C'est-à-dire jusqu'où allait son pouvoir, sa puissance et tout. Donc, il adresse là. Mais par ricochet, on l'étend à nous aujourd'hui encore, quand on regarde effectivement comment Dieu agit dans sa vie. Donc, deux éléments ressortent ici. On a un signe de salutation. OK, ça peut être un signe de salutation. Et puis, derrière ça aussi, on parle de l'expérience vécue. Donc, il a vécu une expérience qu'il veut partager. Et puis, donc, il annonce une parole de grâce, une parole de bénédiction. Moi, ça m'a ramené dans Philippiens 4. Hein. Philippiens 4. Le verset 7, on dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur, point, 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 point. » Verset 7, il dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc, on voit quelqu'un qui a vécu une expérience. Donc, partant de son expérience vécue, de la relation qu'il bâtit désormais avec Dieu, ce n'est pas la même paix que le monde donne. Lui, il est roi, il est tout-puissant, mais il a été traumatisé. Donc, tout ce qu'il possède, tout ce qu'il avait, il s'est rendu compte que je pensais que ma sécurité certainement était dans ces choses-là, mais en réalité, il y a un Dieu suprême au-dessus de moi, capable de me donner une paix profonde, une paix que je n'avais pas expérimentée même quand j'étais roi. Et puis donc, ici, c'est de cette paix-là, moi, j'ai vu la démarche salutation, et puis j'ai vu, au fond, l'expérience vécue qui nous donne cette paix qu'on recherche, au fait. Amen. Parce que là, c'est quelqu'un de transformé maintenant qui intervient, qui parle.
Oui. Ça me fait penser, ce chapitre-là, ça me fait penser à la période des juges. Quand le peuple était en paix, et puis après il se
rébellait.
Il se rébellait, puis là il crie à Dieu. C'est le même
cycle. C'est qui revient. Ses paroles sont assaisonnées de grâce à l'endroit de ses destinataires. Il annonce son grand désir de faire connaître ce que Dieu a accompli dans sa vie. Il veut témoigner de ce que Dieu a fait pour lui. Donc, c'est ce qu'il annonce ici. Il reconnaît toute la puissance de Dieu, son adoration et s'adresse, et ne s'adresse pas aux divinités païennes, mais plutôt au Dieu suprême, au Dieu très haut. Peut-on parler de la conversion du roi Nebuchadnezzar? Des signes de confession apparaissent-ils dans sa proclamation? C'est ici le roi Nebuchadnezzar qui fait sa proclamation et tout cela. Mais est-ce qu'on peut parler de sa conversion? Et puis, est-ce qu'il y a des signes qui ressortent effectivement dans cette proclamation qu'il fait là, du verset 1 au verset 3? Donc, si on parle de conversion de Nebuchadnezzar, comme on l'a mentionné tantôt, est-ce qu'il y a des signes qui apparaissent quand on lit notre texte du verset 1 au verset 3? Est-ce qu'on peut voir des signes de conversion ici pour, dans ce qu'il déclare?
Quand
on
regarde,
mais quand on regarde la fin du chapitre 3, qu'est-ce qu'il a dit, les menaces, le décret qu'il a fait là pour enlever, c'est terrible ce qu'il a annoncé de faire là, ceux-là qui ne croient pas dans le Dieu de Daniel, et maintenant arriver à prononcer la paix. Je trouve que c'est quand même, il y a un changement.
Il y a un changement. Je vais lire la fin du chapitre 3. Okay? La fin du chapitre 3, à partir du verset 29, voici ce que le roi dit. Il dit, voici maintenant l'ordre que je donne, tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, du Dieu de Meshach, du Dieu d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach et autres. C'est ça. Ici, on voit qu'il y a une transformation, effectivement. On peut parler de changement parce que l'identification même qu'il en fait déjà du Dieu, il a fait pareil avec Daniel. Lui ne s'identifie pas au Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego, c'est leur Dieu. Seulement respecter leur Dieu parce que c'est leur Dieu qui apporte la délivrance. Mais ici, on voit un changement de langage. C'est-à-dire, on nous dit, il dit à tous les peuples, au verset 2, il dit, « Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. » Donc, il parle de son expérience vivante. Donc, il parle de son expérience. Le Dieu suprême a opéré à mon égard. Donc, c'est-à-dire l'expérience de Shadrach, Meshach et Abednego. L'expérience qu'ils ont vécue là. Moi, j'ai vécu ma propre expérience avec ce Dieu-là. Et il dit que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. On voit qu'il est en train de non seulement d'apporter une adoration à Dieu, au Dieu suprême, mais un Dieu avec qui il a vécu une relation personnelle, et il est en train de proclamer, c'est ce Dieu-là qu'il veut faire connaître. Il dit, il m'a semblé bon de faire connaître ce que ce Dieu suprême a réalisé à mon égard. Donc, on voit un changement, effectivement, des signes de conversion, de confession. Ici, il y a des signes de confession apparaissent dans sa proclamation. Ses paroles sont pleines de reconnaissance à Dieu. Il n'identifie plus Dieu par rapport aux Hébreux, c'est-à-dire Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Au chapitre 2, quand on a lu, il disait le Dieu de Daniel. Au chapitre 3, il parle du Dieu de Shadrach, en tout cas des trois compagnons là. Mais ici, il s'identifie par rapport à lui-même. Il identifie Dieu par rapport à lui-même. Donc, on va souvent entendre certaines personnes prier, et puis quand on va prier, on va dire, non, le Dieu de tel homme de Dieu, de tel pasteur. Non, non, il dit, ça, c'est mon Dieu. Ce n'est plus le Dieu de l'autre, mais c'est mon Dieu. Donc, comme... J'ai pas entendu. Le roi des cieux. Tu comprends? Donc, il dit, le Dieu... Mon Dieu. Donc, désormais, quand il s'approche de Dieu, ce n'est plus le Dieu d'eux. Mais c'est mon Dieu. Il bâtit une relation avec lui. On dit, le Dieu qui s'est révélé à lui est le Dieu très haut, le Dieu des cieux, comme on va dire. Il reconnaît que le règne du Dieu très haut est éternel et la gloire est à Dieu.
Être certain d'une conversion, c'est que deux éléments de l'évangile, c'est que c'est mort, on est péché. Puis dans les versets 1 à 3, moi je pense que c'est converti parce que plus tard dans le chapitre, tu vois que son royaume est redonné à cause de ses garanties.
Tout à fait.
Et c'est là où ce que tu peux dire, OK, il y a vraiment une conversion, une repentance, une proclamation de la personne qui est Dieu.
Oui.
Mais juste purement sur les versets 1 à 3, je pense pas qu'on peut dire avec certitude qu'il était converti, parce que même les démons croient que Dieu existe.
Oui.
Pendant la personne de Dieu. Fait que l'élément qui va le distinguer de quelqu'un qui est sauvé, pas sauvé, il y a une repentance qui suit juste avant la foi. Mm. Puis je dirais qu'il y a une repentance qui suit juste après la foi aussi. Ça prend ces deux éléments, une conviction du péché et puis une conviction de qui Dieu est, puis dans notre alliance qui Jésus est aussi. Hein.
Oui, tout à fait. Et puis lorsqu'on reconnaît ces choses-là, quand on reconnaît effectivement, on a cette conviction, on a cette confession que Christ est mort pour nos péchés, tout ça, à la fin, c'est la glorification qui vient. Donc c'est cette glorification-là qu'il est en train de faire ici. Ok,
Dieu, c'est pas, ça. C'est l'introduction de ce qu'il va faire. C'est une introduction.
Introduction, voilà.
Le changement est là. Il va en parler.
Il va en parler, c'est ça. Parce que là, il vient rendre son témoignage. On va dire c'est un témoignage qu'il vient rendre de ce que Dieu a. Voilà, un témoignage de conversion. Voilà, donc de ce que Dieu a fait pour lui. Donc effectivement, on peut voir ici les éléments de conversion qui ressortent. Hein. Ok.
On voit aussi qu'au moment où il s'est repenti, immédiatement, un peu comme nous, quand on se retourne vers Christ, c'est pas bon, ben, t'as une couple d'étapes à faire. Non, c'est immédiatement.
Donc, on va rentrer maintenant dans le songe. Ça, c'était la proclamation. OK? On a fait l'introduction, il nous a parlé un peu. Maintenant, le songe est fait. Dans le chapitre 4, nous rappelle un peu le chapitre 2. C'est-à-dire, le chapitre 2, le roi fait un songe, mais là, il oublie le songe. D'autres disent qu'il n'a pas oublié le songe, il fait comme s'il a oublié. Bon, en tout cas, il a fait un songe au chapitre 2. Voilà, il a fait un songe au chapitre 2. Et puis, donc ses devins, ses astrologues, tous ses conseillers spirituels n'ont pas été capables, non seulement de lui dire le songe, parce que c'était sa condition. Dites-moi le songe que j'ai fait, et puis donnez-moi-en l'explication. Mais ils n'ont pas été capables de le faire. Et au chapitre 4 aussi, il fait un songe, mais cette fois-ci, il va prendre le temps de leur expliquer. Comme vous aviez dit la dernière fois qu'il fallait que je vous explique le songe et que vous allez m'expliquer, aujourd'hui je vous donne le songe, expliquez-moi. Donc on voit effectivement qu'il s'agit d'explication de songe. On dit les conseillers spirituels du roi se rassemblent au chapitre 3. Et le roi convoque son monde politique avec des subtilités spirituelles en arrière-plan. Donc au chapitre 3, on va voir que au chapitre 4. Vous avez raison, on est au chapitre 4. Ok, bon, je vais y revenir, c'est correct. Mais ce que je voulais dire, au chapitre 3, il y a eu une convocation aussi pour Shadrach, Meshach, Abednego. Mais la convocation de tous ces hommes, ces conseillers, c'était plutôt des conseillers politiques qui étaient là. C'était des juristes, en tout cas. C'était des conseillers politiques qu'il a plus convoqués. Mais au chapitre 4, il convoque encore après son songe des conseillers spirituels. Donc, parce qu'il veut l'explication de son songe, au chapitre 4. Donc, dans sa quiétude, il dit, il est effrayé par un songe qui ne peut être expliqué par les sages de Babylone. Et il fait appel à Daniel. Et il est confiant que Daniel est capable de donner l'explication. Donc, il fait déjà les éloges de Daniel lorsqu'on lit le verset 9 et le verset 18. Le roi fait connaître donc son songe à Daniel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le roi donc fait le songe, il convoque tous ses conseillers spirituels. Et il leur explique le songe, mais ils sont incapables. Il leur donne plutôt le songe, mais ils sont incapables de donner l'explication. Mais pourquoi il n'est pas allé directement toucher Daniel? Mais Daniel était du lot aussi la première fois, quand même.
Daniel, ce n'est pas quelqu'un d'orgueilleux qui vient dire « je suis capable ». Il est dans le point que Dieu va le chercher, un peu comme David.
C'est ça. Donc, au fait, on peut dire ici, mais peut-être que le roi, il a dit « ben ça, c'est un songe, je vais leur donner l'explication, ils vont me le donner, je ne vais pas déranger ». Daniel, ça, il va pas aller directement au plus fort. Mais donc, il va aller par étapes parce que sans ses conseils, il y en a plusieurs qui sont là tous les jours avec lui. Donc, il a dit, bon, ok, je vais les appeler, ils vont expliquer. Oui, vas-y.
Que Daniel était le chef des magiciens.
C'est ça, on ne déplace pas un chef comme ça, il y a la hiérarchie aussi. Le verset 9 nous dit, Belshazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints et pour qui aucun secret n'est difficile. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Donc, il se dit, si Daniel arrive, ce n'est plus difficile. Il va avoir. Donc, il est sûr que Daniel peut trouver quelque chose. Mais la question, pourquoi il n'est pas allé directement à Daniel?
Toujours seul. La caméra tourne puis il rentre dans le 5 tout seul.
Tout à fait.
Dans tous les temps, on va le voir dans le chapitre 5. Aussi. Oui. Il rentre seul dans le 5. Mais pourquoi qu'il est seul? Est-il racheté parce que c'est un homme de foi ou il est pas, bon, on ne veut pas être chum avec lui, on ne veut pas aller prendre un café avec lui, il rentre dans la scène, toujours seul.
Effectivement, on se rend compte que Daniel était le chef de la province de Babylone. Hein. En plus d'être le chef des magiciens, il avait la responsabilité de la gestion de la province de Babylone. Donc, il y a ses occupations. Il était aussi un homme occupé, qu'on le veuille ou pas. Il y a ça aussi. Et puis, les conseillers du roi. Le roi, il a à sa disposition dans sa cour royale des conseillers spirituels. Vous comprenez? Donc, ils sont payés pour faire la job. Ce qui s'est passé, non seulement ça, n'oublions pas que à ce titre-là, à ce niveau encore, Nebuchadnezzar est un roi très païen, attaché à cette divinité.
Dans un monde séculier, tu n'as pas le choix de t'entourer dans la foi de gens qui ne sont pas croyants. Tu vas demander conseil à des gens qui ne sont pas sauvés. Il y a juste 3-4 personnes dans l'église qui travaillent à temps plein dans des organisations chrétiennes. Le reste d'entre nous, on a des jobs séculaires, on rentre dans le monde séculier. Il faut demander conseil à des gens plus sages que nous.
Dans le domaine.
Dans le domaine. Qu'est-ce que tu penses de cette situation-là?
Ouais. C'est ça.
Célestin,
ouais.
Il y a un changement dans la vie du roi
Nebuchadnezzar. Ouais.
Parce que là, il dit d'après, nommé Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu. Là, il commence à ne pas parler de Dieu réellement. C'est mon Dieu. Là, il y a tout un changement qui vient de se faire, là. C'est par rapport à la fin du chapitre 3 ou du début du chapitre 4, tout dépendant de la version dans laquelle on est.
C'est ça.
Et là, il glorifiait Dieu, mais là, c'est mon Dieu.
C'est ça.
C'est l'esprit des dieux saints, et à l'esprit des dieux saints, c'est comme si là, il revenait à ses anciens dieux.
C'est ça, parce que là, à ce niveau, il était encore dans ses anciens dieux. C'est ça. Il sait que le Dieu des Hébreux est capable d'interpréter. Et puis Daniel est doté de la capacité de son Dieu. Lui, il a son Dieu. Daniel s'appelle Belshazzar. C'est le nom du Dieu de Nebuchadnezzar que Daniel porte là. Donc c'est vers lui qu'il va. OK? Donc, excusez-moi. Donc à ce niveau-là, il n'a pas encore expérimenté. Ça, il est toujours en quête. Ouais. Voilà, il est dans sa démarche. Dieu est en train de travailler. Voilà. Dieu est dans sa démarche. C'est encore intellectuel comme Dodo a dit. À ce niveau, il sait que le Dieu des Hébreux est un Dieu puissant. Il est capable d'interpréter les choses. Mais ce n'est pas encore lui son Dieu. Vous comprenez? À ce niveau, ce n'est pas encore lui son Dieu. Donc, il relate maintenant. Donc, le songe du roi est une sentence de Dieu. Donc, le songe du roi est une sentence de Dieu qui lui est révélée. Donc, le but du songe est de montrer aux hommes la souveraineté de Dieu. Lorsqu'on lit le verset 17, au verset 17, il nous dit « Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que tous les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. » Voilà, donc à partir du verset, le verset que je viens de lire chez moi, c'est le verset 17. 14 à votre niveau. Donc ici, à ce niveau, c'est le roi qui donne l'explication de son songe toujours à Daniel. Voilà, le songe que j'ai fait. Et puis au verset 17, il dit, « Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. » Et puis il élève qu'il veut et tout. Donc on se rend compte qu'il n'y a pas de... le but du songe est de montrer effectivement aux hommes la souveraineté de Dieu. Okay? Et il n'y a pas de hasard dans l'histoire des peuples et des nations. C'est Dieu qui donne le pouvoir, il élève qui il veut et il va rabaisser aussi qui il veut. Amen. Donc j'ai noté quelques versets en bas dans le Nouveau Testament pour montrer effectivement que c'est de reconnaître les autorités qui sont établies. Hein. Toute autorité est établie par Dieu. OK? Voilà. Donc, toute autorité, souvent, on va être confronté à des autorités païennes, difficiles. Dans notre monde actuel, on vit, on les voit, mais on doit pouvoir comprendre effectivement que ces autorités-là sont établies par Dieu. C'est bon? Donc, Nebuchadnezzar est une autorité établie par Dieu. Serviteur. Donc, le songe qui avertit le roi de son abaissement. Donc, la stupéfaction de Daniel cache un malaise, une confusion et vu la sévérité du jugement. Donc le roi lui explique et Daniel doit pouvoir donc expliquer le songe. On dit pourquoi ce jugement? On dit jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il donne à qui il lui plaît. Donc la raison du jugement nous montre le caractère du roi Nebuchadnezzar. Verset 27 et verset 30. Quelqu'un pourrait nous lire le verset 27 et le verset 30 également.
C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme la résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la...
Ok, c'est bon ici. Merci. Donc ici, on voit le caractère de Nebuchadnezzar qui ressort ici. Donc son orgueil qui est mis en avant. C'est-à-dire qu'il se glorifie de ce qu'il a bâti, de ce qu'on dit. Donc, pendant que la parole est encore sur sa bouche, que la réalisation va se passer. C'est-à-dire de ce que Daniel a décrit va se réaliser, ou le songe va se réaliser. Mais avant que le songe ne se réalise, Daniel lui donne une porte de sortie, n'est-ce pas? Il dit, voici ce qui est décrété. On dit, ce qui est arrêté. Mais roi, je te demande de changer de vie, de plaire à Dieu, de marcher, de laisser tomber les péchés. Mais on se rend compte à partir de la réalisation que le roi n'a pas tenu compte de cela. Et donc, ce que Daniel va dire va se réaliser. Donc, le rêve se réalise tel qu'interprété par Daniel. Donc, la parole de Dieu, on retient de cela que la parole de Dieu, donc, est la vérité. C'est un homme au cœur rempli d'orgueil que Dieu va terrasser.
Le verset 27 montre vraiment le courage de Daniel.
Oui.
C'est-à-dire dans le roi le plus puissant de l'époque,
oui,
pour se repentir de ses péchés,
amen,
se détourner de chemin. On a besoin de prédicateurs au Québec qui n'ont pas peur de dire ces choses-là. On a besoin de prédicateurs qui n'ont pas peur à dire que c'est Dieu du bien
et du mal.
C'est pas de relativisme, c'est pas de l'intersectionnalité. Le bien et le mal existent, puis on commet le mal. Daniel était prêt à dire au l'homme le plus puissant au monde,
ouais,
que tu te repentes de tes péchés, ça prend du courage. On a besoin de ce courage-là, de la chair de nos églises, de ne pas avoir peur de dénoncer le péché, de l'identifier et d'appeler les gens à changer de vie. Il y a un vrai manquement à ce niveau-là, c'est dur. Parce que tu te fais tellement critiquer quand tu prêches comme ça, tu prends pour qui, ta. Mais la seule façon que Dieu peut changer ton cœur, c'est la liste des fautes. La seule façon que Dieu peut changer un mariage, c'est si tu changes ta vie, tes fautes. La seule façon que Dieu peut changer tes relations interfamiliales avec tes parents, tes frères et soeurs, c'est si tu es capable de reconnaître tes fautes. Puis Daniel, il a le courage de le dire au roi le plus puissant. C'est un appel à nous de ne pas avoir peur de le dire à nos enfants, de ne pas avoir peur de le dire aux autres. De parler de cette semaine, j'avais lu le passage avant cette semaine.
Ouais.
C'était Yom Kippour cette semaine. Puis là, je parlais avec un de mes meilleurs copains juifs. Yom Kippour, c'est le jour de pardon des péchés.
Oui.
Aurais-tu le courage de me parler des péchés? Il faut que je le fasse.
Amen.
Parce que c'est une question de vie ou mort.
Amen.
Il faut avoir le courage de le faire, même dans l'Église, dans la jeunesse, dans nos camps. Comme il faut avoir le courage de le faire.
Amen.
C'est pas facile.
Amen. Oui, allez, vas-y.
C'est ça, j'appuie un peu ce que le frère est en train de dire sur le passage. Là, ce verset m'a vraiment fait quelque chose. On m'a rappelé un peu les évangélisations quand on avait. C'est comme ça que nous, on a accepté le Seigneur. On nous a dit de changer de vie. Réponds-toi, Jésus revient bientôt. C'était le message d'avant, Jésus revient bientôt. Je me souviens même quand j'ai accepté le Seigneur, comme on dit, quand on accepte le Seigneur, on est dans une fougue là. Et puis je parlais, mon grand-père disait, « Oh, toi, tu n'étais même pas né quand on a entendu parler de Jésus. » On nous a dit, « Reviens bientôt. » Parce que moi, j'ai venu, « Jésus, reviens bientôt. » Mais Jésus est revenu bientôt depuis quand toi, tu es né, nous, on a entendu parler. Mais c'était ce message à répondre, « Vous, Jésus, reviens. » On n'avait pas peur. Les gens partaient de maison en maison pour dire, « Mon frère, ma soeur, accepte Jésus parce qu'il revient bientôt. » Change de vie. Mais maintenant, nos évangélisations, on dirait qu'on a peur de choquer les gens. On dit des choses là, on cache un peu, très, très rarement même qu'on dit aux gens, « Ok, levez-vous, on va parler maintenant, changer de vie. » on dit seulement deux personnes qui sont là, on va prier, est-ce que vous avez accepté Jésus? Mais il faut vraiment parler du péché et puis que les gens se répondent, parce que c'est comme ça que nous on est venus au Seigneur.
Amen. Donc annoncer la vérité de la parole telle qu'elle est, la Bible est la vérité, et puis elle contient tout. Et puis ici, pour revenir à Daniel, on s'est rendu effectivement compte que Daniel, il explique. On nous dit au début, quand le roi lui donne le songe, mais il est un peu confus, il est hésitant, mais le roi lui dit, parle. OK, donc il libère la parole, il explique et après cela, il dit, voici l'attitude à tenir, si tu veux que ce que Dieu a dit ne se réalise pas. OK, donc le roi est averti.
L'appel de Daniel, c'est pas juste pour Nebuchadnezzar, c'est
chaque personne. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire, on va se lever comme des évangélistes pour dire la vérité, annoncer la parole de Dieu. C'est vrai qu'il y aura des critiques, mais c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Il faut l'annoncer telle qu'elle est. C'est ça. Dans son royaume, c'est ça. Dans son royaume, son orgueil, la domination. Donc, c'est un peu ça que Daniel touche. On dit, l'homme le plus puissant est réduit à un état de déchéance et d'humiliation à cause de son orgueil. Donc, Dieu était-il en train de réaliser le plan de conversion pour le roi Nebuchadnezzar? C'est-à-dire, l'évangile est annoncé. Je vais dire évangile ici. Donc, il parle avec lui. Daniel saisit l'opportunité que le roi lui donne et il apporte la parole de Dieu. Voici ce que change de vie si tu ne veux pas. Donc, je dirais, le plan du salut lui est accordé. Mais malgré cela, Nebuchadnezzar, quand même, demeure toujours un homme entêté. Hein? Et au verset 31, on nous dit, « La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. » Et jusqu'au verset 33 chez moi, 30 chez les autres, au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea et tout cela. Donc, on voit la réalisation de tout ce qui a été proclamé, de tout ce qui a été annoncé et dit, qui se réalise. Et à partir du verset 34, on dit, « Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. » Donc, là, il est dans sa période de déchéance. On parlerait de folie, on parlerait en train de brouter de lèbre. C'est-à-dire, il est rejeté pratiquement du royaume, ou bien il est mis à l'écart du royaume. Donc, on dit, c'est pendant ce temps-là, on dit, une raison lui vient. Et voici ce qu'il déclare. Il dit, « J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. » Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Donc ici, on voit le cœur de quelqu'un qui est touché, transformé. Parce que c'est le roi Nebuchadnezzar. Moi, le roi Nebuchadnezzar. Il était en train de contempler toutes les œuvres qu'il avait pu bâtir, ce qu'il avait pu accomplir. Les hommes même, peut-être certainement, il avait droit de vie et droit de mort sur les gens. Mais c'est lui qui se retrouve dans une situation de déchéance telle qu'il ne peut pas s'en sortir.
Je pense que c'est une belle preuve de la grâce de Dieu parce que il l'a délivré de sa folie avant qu'il se convertisse vraiment. Puis il savait que Nebuchadnezzar, une fois qu'il va revenir à sa raison, il va voir que c'est pas par ses propres moyens. T'sais, c'est vraiment par Dieu qui a été guéri de ça. Puis ça correspond à la promesse qu'il a faite.
Amen.
J'aurais tendance à croire que c'est plutôt l'inverse. Tu sais, tu te convertis, puis après ça, tu guéris, mais là, tu penses une belle.
C'est ça. On voit ici la grâce de Dieu dans nos conversions. Hein. C'est-à-dire, Dieu, il va aller chercher. C'est-à-dire, si chacun doit rendre son témoignage de conversion ici, on ne pourra pas en finir. Ça sera des expériences différentes. Dieu va chercher des personnes dans leur bas-fond. C'est-à-dire, où il n'y a plus d'espérance dans notre déchéance, il te prend et puis te repositionne. Dieu va prendre des personnes aussi, je dirais, aussi simplement, c'est-à-dire dans leur positionnement, dans leur hauteur, et puis Dieu les touche tranquillement. Donc, chacun a son expérience. Certains, c'est par des épreuves pas possibles qu'ils vont venir au Seigneur. D'autres aussi, c'est dans des moments de réjouissance et de joie qu'ils vont venir au Seigneur. Donc, chacun a une expérience de conversion particulière. Oui, cher frère.
J'aimerais qu'on mette l'accent sur le verset
qui dit « J'ai regardé vers le ciel » dans le verset 31. Et après, c'est ça, donc et la raison, il n'est pas revenu.
Ouais.
Et après ça, il a levé les yeux vers le ciel.
Ouais.
Il a commencé par lever les yeux vers le ciel et la raison lui revint. Puis
ouais.
En tant que pêcheur, puis même en tant que chrétien, dans des moments difficiles, des fois, on est porté à dire « Je vais attendre que ça passe avant de relever les yeux. Ouais, mais que Dieu parle à mon cœur. Après ça, je vais revenir à lui. Ou, tu sais, on va laisser Dieu parler à son cœur. Non. C'est que, on voit vraiment. Lève les yeux vers le ciel. Et là, le Seigneur va venir parler à ton cœur. Il va venir te. Mais c'est cet acharnement-là qu'on doit toujours avoir dans l'épreuve, puis dans la chaleur, dans la difficulté de garder les yeux vers le ciel et ne pas attendre que le Seigneur va venir parler à notre cœur pour nous aider à.
Amen. Amen. C'est tellement touchant, c'est-à-dire, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Donc, c'est ce que le frère révèle, c'est-à-dire, on lève les yeux effectivement vers le ciel. Hein? Le verset 31, chez nous, c'est le verset 34, hein? Pour ceux qui ont la même version que moi. Non, tu es correct là, c'est ça. Il dit, après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levais les yeux vers le ciel. Comprenez? Il dit, je levais les yeux vers le ciel. C'est-à-dire la relation verticale. Des fois, on passe par des moments difficiles, on cherche des solutions. Mais au lieu de lever nos regards vers le ciel, mais on va regarder vers la terre. C'est-à-dire, on sera en train de se débattre nous-mêmes. C'est-à-dire, on mélange tout. Et puis au dernier moment, maintenant, on vient lever les yeux vers le ciel, puis Dieu, je suis fatigué. Comprenez? Mais il souhaite ici qu'on fasse l'inverse. On lève les yeux vers le ciel. Donc, il dit, je levais les yeux vers le ciel et la raison me vint. C'est-à-dire, je reconnais le ciel, je reconnais qu'il y a un créateur. Et en ce moment, la raison me vint. Et j'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Donc, c'est cette confession qu'il a faite là ici, qu'il a mis dans sa proclamation aussi quand il faisait son introduction. Ça rejoint effectivement ce que le frère vient de dire. On voit la grâce de Dieu ici. C'est-à-dire la grâce de Dieu dans la vie de chaque personne. C'est-à-dire dans nos moments de conversion. L'évangile, même des fois, tu annonces l'évangile à quelqu'un et puis tu dis, mais lui, il est trop dur. Son oreille est trop difficile. Bon, s'il ne veut pas se convertir, c'est son affaire. Mais en réalité, c'est la grâce de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui convertit. Nous, ce qu'on a qu'à dire, comme Daniel, on proclame. On va dire la vérité de la parole. Et puis Dieu, il va faire le reste du travail. Où l'Esprit de Dieu travaille au fond de lui.
Oui.
De Nebuchadnezzar, tu veux dire? De Daniel, ok.
Le premier, c'est qu'il n'a pas peur d'appeler le roi à la repentance. Je pense que le deuxième, c'est qu'il aime Nebuchadnezzar. Parce que quand il sait qu'est-ce qui va lui arriver, il est troublé. Il aurait préféré que ça arrive à quelqu'un d'autre. Ça, je pense qu'il y a deux éléments. Il faut que tu aimes ton prochain, mais il faut que tu dises la vérité aussi. La vérité avec amour, mais la vérité quand même.
C'est ça. Parce que des fois, il y a la position du roi aussi. Hein. Il y a la position, mais le roi, ce qui est intéressant ici, on voit que Dieu a travaillé dans son cœur. Dieu a préparé les choses au fur et à mesure. Parce que quand il appelle Daniel, moi je sens un roi relax. C'est vrai qu'il est effrayé, mais je sens un roi relax qui sait que la réponse va venir. Vous comprenez? Il dit, mais cette réponse-là, il faut qu'elle soit entendue et qu'elle soit dite. Mais Daniel n'a pas tourné parce que des fois, il va nous arriver, au lieu de dire la vérité, on va essayer de chercher, de maquiller l'affaire. OK? Mais on n'a qu'à dire la vérité. Puis Dieu va faire le travail. Dieu va faire le reste.
On parle de la grâce de Dieu. Mais
c'est ça.
Dieu n'est pas obligé de nous redonner ça.
Amen.
Son royaume.
Son royaume.
Il n'est pas obligé.
Donc, l'intention de Dieu pour Nebuchadnezzar se manifeste. Versets 34 et 35. Donc, ça va être 30 et... Donc, un peu... Un peu comme on a lu tantôt, le verset 30, je vais lire le verset 35 aussi, qui dit donc 32 pour les autres. Donc, tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu ?» Ah, il a, quelqu'un pourrait dire Nebuchadnezzar a pris à la dure. Hein? Parce que de tout son royaume, de tout son pouvoir, lui qui avait toute la domination possible, mais aujourd'hui il reconnaît qu'au-dessus de lui, il y a quelqu'un d'autre. Parce qu'il se prenait certainement pour Dieu. En dehors de... Plus c'est lui, ses propres dieux, là. Mais il dit au-dessus de ces dieux, au-dessus de tout, il y a un être suprême, un Dieu suprême. En ce temps-là, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me fut rendue. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus établi dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Verset 37. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux dans toutes les œuvres, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Donc ici, il le précise lui-même. Il dit, Dieu peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Je reconnais que j'ai marché avec orgueil, je me répands.
Ça me fait penser au roi Hérode dans les actes qui a été rongé de verre.
De verre. Orgueil.
Rongé de verre. Il est mort comme ça. Parce qu'il était
orgueilleux. On voit comment Dieu peut agir avec des personnes. Quand on voit la vie de Job, on nous parle de Job qui était un homme intègre et tout ça, mais on voit les épreuves par lesquelles le Seigneur le fait passer avant de le restaurer. Et puis on voit un gars orgueilleux qui croit que Dieu utilise même pour apporter les jugements et tout, qui progresse, mais ici que Dieu va aller chercher pour qu'il revienne à lui comme serviteur. Amen. Donc, et la conséquence de sa confession lui permet de retrouver la raison et toute sa gloire royale. Cependant, notons que le roi a un nouveau regard, disons un nouveau cœur. Donc ici, quand il est rétabli, ce n'est plus le même roi qu'on avait connu. Donc c'est ce qui fait qu'il est capable aujourd'hui de confesser de la sorte. Le roi reconnaît que l'Éternel est le seul Dieu et qu'il est le roi des cieux. En lui, il met sa confiance. Dieu le plonge dans l'abaissement pour le convertir. Donc le Seigneur va utiliser les moyens qu'il veut pour amener les hommes à lui comme il le sent et comme il veut. C'est sa grâce. Et puis, c'est ça.
Il a voulu sauver. Dieu se soucie assez de cet homme-là pour nous donner une conséquence qui sera pas croire.
C'est ça. Et on voit que dans son rétablissement, Dieu le rétablit dans tout ce qu'il avait. C'est-à-dire, il redevient roi, il est même redemandé et tout cela. On aurait pu faire un coup d'État et puis se débarrasser de lui. On l'aurait pu l'interner, on ne savait pas, quelqu'un d'autre aurait pu régner. Mais Dieu a préservé toutes ces choses-là parce que Dieu avait un plan particulier pour lui. C'est là qu'on voit la souveraineté de Dieu. Il y a des choses qui arrivent, on ne comprend pas, mais c'est Dieu lui qui comprend.
La vaste majorité des nations, il aurait mis à terre.
C'est ça. La raison. Tout à fait. Son royaume, on se débarrasse de lui et puis on positionne. C'est ça. Mais Dieu a préservé l'environnement, a conduit les événements parce qu'il avait un but particulier pour Nebuchadnezzar. La vie du roi Nebuchadnezzar nous enseigne ce matin que Dieu gouverne avec justice absolue. Dieu peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Et j'ai gardé orgueil parce que c'est ce que la fin du verset nous dit. C'est Nebuchadnezzar qui nous le dit. Donc je n'ai fait que copier Nebuchadnezzar ici. Donc la conversion est l'œuvre de Dieu. Et puis Dieu est miséricordieux. Il offre son pardon aux pécheurs repentants. La nouvelle naissance produit un changement de vie intérieure. Donc on se rend compte effectivement que Nebuchadnezzar change de cap. Et puis, j'ai mis ici, méditons ensemble, quelques versets que j'ai pu faire ressortir ici. Jacques 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc tout ce que Nebuchadnezzar possédait, son royaume, je dis ses capacités, ses conseils, c'est parce que Dieu a voulu le lui donner. Et il n'avait pas besoin de s'enorgueillir parce que c'est Dieu qui lui donne. Mais c'était plutôt l'inverse. ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. C'est-à-dire tout ce qu'on peut accomplir, tout ce qu'on peut faire, vient de Dieu. C'est une grâce, c'est un don que Dieu nous fait. Il dit, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Donc c'est Dieu qui nous donne toutes choses. Amen.
Amen.
Donc deux, trois personnes, selon l'étude, vous allez prier pour nous. Oui, vas-y.
Le premier concernait Nabucodonosor.
Oui.
Et l'exemple. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut.
Amen.
Et l'autre verset, c'est dans Romains qui vient mettre un sceau sur l'autorité de Dieu, sur les, que Dieu met sur les autorités, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu.
Amen. Merci, merci pour la participation de chacun.